On commence cette édition avec les interviews de l'IA, le rendez-vous donc de Smart Tech avec ceux qui font l'actualité et la décryptent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, autour de la table, Sophie Duranteau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes manager conseil chez Niji, qui est un cabinet de transformation numérique. Et on va parler ensemble des tendances 2026, et notamment autour de l'intelligence artificielle, bien évidemment. Avec vous, Jérémy Angelier. Bonjour, Jérémy.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de Shake. On va démarrer, évidemment, avec Sophie. Honneur aux femmes, place aux dames. On n'en a pas toujours, et ça, c'est parfois une grande tristesse pour moi. Sophie, donc, votre agence conseille les entreprises sur les grandes transformations numériques. J'imagine que c'est dans ce cadre que vous vous rendez chaque année sur le CES de Las Vegas. On a déjà fait un décryptage des gadgets, des technos, des machins. Mais quelles sont, vous, les grandes tendances avec lesquelles vous êtes revenu et que vous avez envie de partager, notamment pour que vos clients, les entreprises, prennent le bon chemin de l'intelligence artificielle? Alors, qu'est-ce qui vous a frappé
C'était les robots. C'était vraiment, on parle de l'intelligence artificielle, mais là, c'était le physical AI, l'IA physique, ouais, qui vient intégrer vraiment à ces robots qui sont maintenant en mesure de faire des tâches à peu près humaines, presque humaines, ouais, et qui, en l'espèce d'une journée, maintenant, sont en mesure de pouvoir apprendre ces tâches et les reproduire. Donc ça, c'était la première grosse partie. La deuxième, je trouve aussi...
Et le décalage entre les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez vu véritablement au CES à Las Vegas, dites-nous?
Alors, on a vu un seul en complète autonomie, pour le coup, c'était le robot d'Unitri, qui, pour le coup, on est dans la catégorie un peu du divertissement, on est à Las Vegas, hein. Ils avaient mis en place un ring de boxe où on pouvait faire un match de boxe avec le robot. Le seul côté bluffant, c'est qu'il était complètement en autonomie. On sait qu'on est aux États-Unis avec la régulation, c'est-à-dire que s'il y a un moindre problème, il y a les procès. Et en fait, ils avaient tellement confiance en leur robot qu'on pouvait interagir directement avec. Et on a vu plein d'autres.
Et il n'y avait pas de télécommande derrière?
Alors, Unitri était le seul, justement, c'est exactement ce que j'allais dire. Unitri était le seul sans télécommande.
D'accord.
Et par contre, tous les autres, effectivement, soit il y avait un ordre prédéfini à l'avance, soit il y avait effectivement quelqu'un qui était derrière avec la télécommande discrètement en train de faire
la
manipulation.
Donc on se prend un coup de poing du robot?
Unitri, oui.
Ah oui, ok.
C'est un match de boxe en même temps.
Mais
il est capable de faire
ça. Vous dites qu'ils font attention à la sécurité, en même temps, ils laissent les robots nous rentrer dedans.
C'est sur un ring, c'est une compétition.
Ah, c'est officiel. Alors,
ils ont tous les droits. Mais en même temps, ils suivent les règles, j'imagine.
Et le robot esquive aussi, alors.
Le robot esquive.
Ah bah oui,
le robot peut se déplacer, les coups de poing, les coups de jambes.
Parce que moi, j'avais assisté à des compétitions, mais il y avait des télécommandes.
Là, il n'y en a pas.
Il n'y en avait vraiment pas.
C'est vraiment un robot à forme humanoïde et qui est complètement en train de faire un match de boxe avec une personne. Mais c'était le seul notoire, en tout cas, qui était autonome. Ouais. Les autres avaient un geste, un ordre précommandé, en fait.
Oui. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça, de l'intelligence artificielle, de la progression, de la manière dont ça va s'insérer dans la société? Est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'on va vraiment vivre l'arrivée des humanoïdes?
Pour en avoir discuté juste avant, moi, j'ai eu l'impression d'avoir vu.
Ne faites pas les débats avant de venir en fait.
Non, mais justement.
Il fallait pas le dire,
C'est au CES, j'ai vécu. Moi, je viens du monde du conseil, on appelle ça le change, c'est de préparer les gens au changement.
Oui.
J'ai eu l'impression de vivre ça à échelle humaine, du monde, où on nous dit attention, les robots arrivent dans votre quotidien, les robots arrivent dans votre maison, mais on leur donne un regard rassurant, on leur fait faire des petits cœurs avec les photos. Ils ont même des petits cœurs dans les yeux pour être rassurants, pour nous dire qu'ils vont venir être avec nous dans notre quotidien et pas venir nous remplacer. Donc nous, on dit, on met un peu un message d'alerte. Parce qu'il faut rassurer, il faut faire accepter aux gens cette arrivée des IA et des robots. Mais c'est vraiment un ressenti très, très fort où je me suis dit, on y est maintenant et ils arrivent dans quelques années dans les maisons.
Ils testent d'abord dans les usines.
Ils testent d'abord dans les usines pour avoir pu assister à la conférence des Boston Dynamics, donc avec Hyundai. Ils ont présenté, au-delà du spot qui était le robot un peu plus classique dans les usines, là, le robot Atlas. Si vous avez pu voir des images, il est bluffant à voir. Et effectivement, le bus qui tourne à 360. Ils ont aussi annoncé une roadmap sur la durée où ils vont d'abord aussi faire leur école de robots. Où les robots vont être en mesure d'apprendre ces fameuses tâches assez rapidement. Et in fine, si Atlas est validé au sein des entreprises et surtout dans l'industrie, Atlas pourra arriver dans les maisons.
Ça vous fait rêver?
Si c'est un robot avec qui on fait de la boxe à domicile, je ne vois pas l'intérêt, effectivement. Mais si c'est des robots utiles, pourquoi pas? Ça me choque pas. On a déjà vu doucement les petits aspirateurs. Au début, tout le monde était un peu outré, mais ça ne marche pas. Finalement, c'était assez efficace. Donc
là,
si ça fonctionne bien...
Cette IA, elle prend d'autres formes, peut-être plus classiques et qu'on a déjà vues à l'intérieur des wearables, donc tous ces objets technologiques qu'on porte sur soi.
Exactement.
Je me souviens que la saison précédente, le grand truc, c'était de se dire, on va remplacer le smartphone par des petits pins qui embarque des IA, parce que finalement, c'est fastidieux d'aller chercher sur son smartphone son chatbot. On en est où? Il y a un peu la hype est un peu retombée.
Alors, il y a eu aussi
Plo est toujours là.
Comment?
Plo est toujours là.
Toujours là, maintenant grand public. Maintenant grand public, Amazon, facilement à retrouver sur les grands marchands. Là, on a tous les types de wearables augmentés à l'IA. On a les lunettes qui, ça fait des années qu'ils essayaient de pénétrer le marché et de convaincre l'utilité des lunettes. Là, on a effectivement deux types. Le type où on va recopier un écran et le type réalité mixte. Moi, j'étais plutôt convaincue sur la partie réalité mixte où deux cas d'usage intéressants. Le premier, c'est le traducteur en temps réel, c'est-à-dire qu'on vous parle, et imaginons, on parle des langues étrangères, on peut se comprendre avec un léger temps de délai, et c'est vraiment rapide et assez bluffant pour l'avoir testé. Et le deuxième, c'est, pour faire des présentations à l'oral, c'est les prompteurs. C'est-à-dire que sur mes lunettes, je pourrais vous parler, et en fait, vous ne saurez pas, j'ai un petit prompteur en dessous que vous ne voyez pas, qui me permet de tenir ma conférence sans apprendre mon texte par cœur.
Mais ça enlève tellement de naturel. Par exemple, moi, je pourrais avoir un prompteur ici, mais j'en ai pas parce que je trouve que voilà, c'est important qu'on puisse rester dans la spontanéité. Donc, attention.
C'est pas le même regard derrière.
C'est pas le même, mais ça rassure.
Autre tendance, une dernière tendance peut-être
La santé, et qui prend un autre nom, qui maintenant, enfin je trouvais que c'était plutôt sur la longévité, c'est-à-dire qu'avant on parlait de la silver tech, maintenant le nom a changé, c'est la longévité, et ça s'adresse à tous les âges, c'est-à-dire qu'on ne va
Qu'est-ce que ça change alors,
Ça change qu'on nous fait encore une fois adopter, toujours ce change, on nous fait adopter les objets qu'on va porter au quotidien pour vieillir plus longtemps, pour être en meilleure santé, et de manière pas du tout anxiogène, se checker l'état de santé quotidiennement tout le temps, sur tous les pans, sur vraiment est-ce que mon rythme cardiaque est bon, mais même aussi quelle est ma fertilité, on a vu beaucoup de choses sur la fertilité, et sur comment améliorer la mobilité, la motricité quand on devient un peu plus âgé pour garder l'autonomie à la maison. Donc c'est vraiment sur tous les pans de la santé qui ont été pris.
Et tous les âges.
Tous les âges, vraiment tous les âges. Et c'est pour ça qu'on appelait ça plutôt la longévité, parce que maintenant on nous les fait intégrer de plus en plus jeunes dans notre quotidien et qui nous permettent de vieillir un peu plus longtemps et de garder le plus d'autonomie.
Vous êtes du genre à porter des objets connectés qui surveillent
j'avais
votre
gagné,
santé
ou pas? J'avais gagné une fois dans un concours, je me souviens, ces montres connectées qui donnent tout. Moi ça me...
Non.
J'ai pas vu l'intérêt de savoir combien de pas j'ai fait dans la journée, ça m'intéresse pas trop. De savoir que je bats 73 ou 86, ça me... Après, je pense que ça touche soit des personnes un peu plus anxiogènes dans la vie, soit des personnes qui ont des problèmes de santé. Et là,
des
effectivement, il y a un vrai...
Aussi,
ou des sportifs, voilà.
Sportifs.
Je pense qu'eux ont un véritable intérêt, ouais.
Ok. Allez, Jérémy Angelier, c'est à vous. Vous êtes producteur de films publicitaires, réalisateur, animateur télé aussi, fondateur de Shake. C'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. C'est un studio de création de films publicitaires, mais aussi une communauté de cinéastes qui utilisent l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous avez pensé de la publicité du loup d'Intermarché?
Déjà, c'est une très bonne publicité en tant que film. Il y a ou pas dans la question, effectivement, c'est une pub très réussie. Elle a fait le tour du monde, elle est magnifique. Pourquoi elle a marché?
Et ce qui a plu, c'était que, on revenait à de la création sans IA.
C'est drôle, en fait. C'est parce que l'actualité faisait qu'il y avait un mouvement un peu anti-IA. On se posait la question, est-ce que c'est bien, c'est mauvais? Et cette pub est sortie à ce moment-là, suite à justement, il y avait une publicité Coca-Cola, une publicité pour Noël aussi qui n'avait pas marché, qui avait été retirée. Il y a McDonald's qui l'avait fait. Donc celle-ci, c'était un peu le fer de lance de regarder ce que l'humain sait faire. C'est quali, est-ce qu'on a vraiment besoin de cet outil-là?
Mais en même temps, moi, ça m'a fait rire parce que c'était quand même créé avec des outils numériques, alors qu'on a connu les périodes...
Exactement.
On a vu des dessins animés dessinés à la main, qui étaient encore
alors,
plus attendrissants.
Ça a été fait à la main au début, les dessins, qui ont été ensuite animés, mais l'animation en tant que telle, que ce soit l'IA ou pas, si le film est bon à la fin, et en l'occurrence...
Ça parle dans votre sens, ça veut dire que l'IA, c'est un nouvel outil. On est d'accord,
c'est juste un outil en fait qui est là pour
Mais alors donc il y a quand même un problème pour l'instant, c'est qu'on s'en empare pas très bien visiblement, puisque ça n'arrive pas à convaincre.
Non, alors c'est en cours, c'est normal, les transitions technologiques mettent toujours un peu de temps. J'ai toujours un peu le même débat depuis un an, je suis pas là pour justifier l'IA si c'est une bonne utilité ou pas, ce qui compte c'est les gens derrière en fait, c'est quel est le créatif qui va se servir de l'IA et dans quel but. L'IA pour l'IA n'a aucun intérêt. L'IA n'a un intérêt qu'à partir du moment où on a une histoire qu'on veut sublimer et que l'IA a un véritable impact dans cette histoire.
Qu'est-ce que ça change en termes de formation, de prise en main pour les cinéastes quand est arrivée la révolution informatique, on va dire, il fallait savoir se servir de logiciels, d'un ordinateur. Là, l'IA, qu'est-ce que ça change?
Ça retouche un petit peu justement l'univers de l'animation. On a beaucoup de... Nous, on le voit sur la communauté. On a des monteurs, on a des graphistes, on a des motion designers. Donc, c'est des métiers qui n'étaient pas forcément la personne décisionnaire, le réalisateur qui chapeautait et qui pourtant, techniquement, sont très, très bons. Donc, tous ces gens-là, eux, ont déjà le background technologique, technique nécessaire. Ouais. Maintenant, à ça, faut ajouter la créativité et savoir raconter des histoires. C'est en mêlant ces deux univers-là qu'on est vraiment quelqu'un qui est apte à utiliser l'outil. Donc, les écoles, de cinéma sont en train de se poser la question.
Ouais, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il faut qu'elles mettent dans leur cursus?
Le mélange des deux. Il faut qu'ils apprennent l'histoire du cinéma.
Apprendre à prompter, par exemple.
Mais l'apprendre à prompter, en fait, ça, c'est un tout petit détail technique, en fait, dans toutes les histoires. Quand on fait une école de cinéma, si on prend cet exemple-là, on va apprendre l'histoire de l'art, on va apprendre l'histoire du cinéma, on va apprendre des cas d'usage, on va réaliser des films, on va se tromper, on va apprendre, on va se relever jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on ait un petit peu compris la technique. Moi, quand j'ai fait une école de cinéma, je me souviens de mon professeur qui m'avait dit le dernier jour, voilà, tout ce que je vous ai appris maintenant, oubliez-le et faites tout l'inverse. Mmh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est que la technique qu'on vous apprend pour être un bon cinéaste, ce n'est pas la technique qui va faire de vous un bon cinéaste.
Que change l'IA?
Bah, l'IA,
qu'elle va changer dans les écoles.
C'est exactement la même chose. Il va falloir juste manipuler un peu l'outil technologique, sachant que ça évolue tellement vite, ce qu'on apprend ce mois-ci sera déjà obsolète le mois prochain. Il faut comprendre la mécanique globale, savoir comment ça fonctionne. Et après,
juste... vous entendre, finalement, ce n'est pas très compliqué.
C'est pas que c'est... Non, c'est...
Non, mais on se dit...
Tout dépend des cas d'usage.
Ah, si on est déjà cinéaste,
oui,
le passage à l'IA, il n'est pas compliqué?
Moi, je pense que la technique en tant que telle n'est pas compliquée. D'ailleurs, c'est ouvert au grand public. Le grand public peut aujourd'hui faire des images. On le voit, il y a des très belles vidéos qui sortent, il y a des belles photos.
Donc, tous les cinéastes pourraient se préparer aujourd'hui de l'IA?
Mais... Oui,
en fonction de leur talent.
En fonction de leur talent, évidemment. Mais je pense que c'est plus de l'acceptation, d'accepter ça comme un outil qui va upgrader la créativité, l'histoire qu'on va raconter. Et si on est ouvert à ça, oui, effectivement, je ne connais pas un réalisateur qui se raconte.
La question, c'est est-ce que ça augmente la créativité ou est-ce que ça permet juste d'aller plus vite, de dupliquer des scènes plus rapidement, enfin voilà.
Les deux, clairement. On va pouvoir faire des choses qui étaient inenvisageables avant, donc on va pouvoir réaliser des scènes qui auraient nécessité des équipes techniques, des tournages hollywoodiens. Ça, c'est impossible. On a vu la grande tendance des films de science-fiction. Donc aujourd'hui, on peut réussir à raconter ce genre de film. Donc ça, évidemment, ça va permettre tout ça. Mais ça va aussi... pour le marché publicitaire, simplifier la donne, permettre à des films qui ont moins de budget de voir le jour. Ça va permettre à des entreprises de petite ou moyenne taille qui n'avaient pas les budgets pour aller viser un peu la catégorie d'au-dessus, de justement changer de dimension et d'aller faire des films cinématographiques et d'aller raconter des histoires encore plus poussées.
Donc ça démocratise en fait l'accès aux films publicitaires, c'est ça que vous dites?
Exactement, on a eu le téléphone portable.
Ça baisse le budget de combien à peu près? On est à 50%?
C'est très dur à dire parce que ça va dépendre de la qualité intrinsèque du film au final. Si on fait de l'IA juste basique, simple, on va pouvoir diviser par 5 facilement le coût. Maintenant, ça va pas être de la qualité. Si on rajoute à ça le vrai savoir-faire de l'écriture, les bruitages, la musique, l'habillage visuel, il y a 15 000 métiers qui vont s'ajouter à tout ça. Et là, on va revenir dans des standards budgétaires qui vont peut-être diviser par 2 maximum le budget.
Vous connaissez un peu cet univers de la création par IA? Vous en avez parlé avant, mais sur le plateau, pour en parler aussi.
Oui, on a déjà tout fait le débat en fait, tout à l'heure, on était d'accord.
Moi j'aime bien, ça crée des rencontres, Smart
Tech. Parce que même nous, au sein de notre entreprise, on a toute une partie, un pan de direction artistique qui est justement sur les sites internet, on est plus sur l'environnement professionnel.
Oui.
Et justement, il y a toujours besoin un peu de cette créativité. Et justement, et nous, ils ont créé des agents ou même des outils qui permettent d'accélérer certaines choses. Et on ne vient pas enlever la créativité humaine. Hein. On vient juste accélérer, en fait, certains penchants de toute cette création artistique qui va avoir besoin sur les maquettes, sur différents visuels qu'on va pouvoir avoir, qu'on va pouvoir fournir un peu plus vite. Donc, ça permet de dégager du temps pour d'autres choses.
Oui, parce que c'est vraiment ce sujet de la créativité, quoi. Est-ce que cette IA apporte de la créativité ou pas? Et est-ce que les cinéastes sont à l'aise avec cette idée?
C'est en train de bouger, les lignes. Si on regarde les statistiques, il y a un an, on était sur du 80-20. Les cinéastes étaient tous contre. Attention, c'est dangereux. Où est la créativité? Puis on a vu que l'outil technologique s'est amélioré. C'est de plus en plus réaliste. C'est de plus en plus qualitatif. On a commencé à se dire, tiens, c'est pas mal. Et puis doucement, par curiosité, certains ont basculé en testant. J'en fais partie de ces gens-là. Et moi, ça a été une révolution. J'ai fait un bon 20 ans en arrière dans ma créativité, justement, que j'avais un peu délaissé. J'étais rentré dans un business de production où je faisais des films, que je vendais, ça marchait bien. C'était devenu un rituel. Là, j'ai découvert un outil qui, d'un coup, m'a permis de faire des choses qui étaient inenvisageables. J'ai passé des nuits blanches à créer des films, j'ai fait des tours du monde de festivals, j'ai rencontré énormément de monde. Ça m'a ouvert le champ des possibles, et ça, je l'ai découvert avec la communauté, partout dans le monde. Il y avait des petites personnes comme moi dans tous les pays qui, tout d'un coup, se disaient « Tiens, ça, c'est possible. » Ils se sont rejoints, ont créé des collaborations et il y a tout un nouveau monde parallèle qui s'est créé et qui doucement se rattache au monde traditionnel pour que dans quelques mois, on oublie le mot IA et on fera juste des films, en fait.
Ah oui, c'est ça. C'est que ça va complètement transparaître. Mais on aurait pu faire le loup d'Intermarché avec une IA, avec autant d'émotions et une telle qualité.
Oui, complètement. Alors, je dénigre pas du tout cette publicité. Elle est très, 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 très bien faite. Donc c'est pas le but.
Le monde entier ado, sinon.
Non. Mais tout le monde je le dis très clairement. Et d'ailleurs, c'est dans les circuits des gens qui font de l'IA, tout le monde s'est posé cette fameuse question-là. Est-ce qu'on aurait pu faire ce film-là? Évidemment qu'on aurait pu le faire. On aurait pu le faire pour clairement beaucoup moins d'argent aussi et beaucoup plus rapidement. Il a coûté de mémoire, je crois que ça a été 7 mois de travail, 3 millions de budget. Si on pense IA, le but, ce n'est pas d'économiser forcément du temps ou de l'argent, mais à qualité égale, on divise largement tout ça.
Mais sur quelle partie on aurait pu gagner du temps ou de l'argent?
Alors, si l'enjeu, c'est de gagner de l'argent, effectivement, là, l'IA a l'intérêt.
Mais en gardant la même qualité.
Ah, en gardant la même qualité, surtout. Le dessin initial, je pense qu'il faut garder le créateur qui a créé le dessin initial. La partie animation en tant que telle, que ce soit de l'IA ou pas, ça ne changera rien.
Parce que moi,
j'ai vu des comparatifs des deux recréés par l'IA comme ça en démonstration. Je défie quiconque de voir la différence dans l'animation.
Ah bon, parce que alors, moi, après coup, j'ai vu qu'ils ont monté une opération où on pouvait se prendre en photo avec le loup.
Ils ont retiré, je crois, parce que...
Ouais. Et du coup, c'était une IA. Donc, évidemment, qui faisait le loup, il n'était vraiment pas mignon de la même façon.
Qui était l'humain derrière cette IA? On en revient au même sujet. C'est le créatif derrière qui va agencer ça. Ça prend un certain talent aussi. Mais en tout cas, l'animation intrinsèque, IA ou pas, aujourd'hui, avec la technologie, on fait un travail de même qualité.
Le sujet aussi, c'est celui de l'IA, ça sert à être rentable, ça sert à casser les coûts, ça sert à remplacer des postes ou pas. Et aujourd'hui, comme on a une maîtrise, on apprend, et c'est vrai que vous l'avez dit, ça change tout le temps, ça va très vite. Est-ce que c'est si rentable que ça d'intégrer l'IA dans ces process aujourd'hui? Pour l'instant, à chaque fois que je vois des études passer, c'est pas le cas.
Tout dépend comment c'est intégré en entreprise.
On n'a pas fourni la preuve du retour sur investissement.
Moi, je trouve que tout dépend de comment c'est intégré dans l'entreprise, comment on le présente aux personnes. Moi, j'arrive sur la sphère professionnelle et comment on vient l'intégrer vraiment en fonction toujours des use cases qu'on va avoir et quel métier on va s'appliquer. Par exemple, moi, je suis au conseil, mais j'ai des collègues qui sont développeurs et il y a des IA qui aident à faire du développement de code. Et il y a toujours cette limite d'apprendre aux personnes comment utiliser ces IA, comment discuter, parce qu'on peut avoir de l'IA agentique, donc qui va parfois pouvoir avoir l'apparence, en tout cas, d'un collègue qui va nous aider à faire certaines tâches. Moi, je pense par exemple à des tickets, des choses comme ça, des tickets de problèmes informatiques ou autres. Avec l'IA, ça va beaucoup plus vite à faire. Et moi, ça me permet de dégager du temps pour autre chose. C'est juste que je pense qu'il faudrait mesurer, peut-être pas forcément le gain ou autre, mais le gain de productivité, en tout cas, qui peut-être est moins financier. Mais moi, ça me dégage beaucoup plus de temps pour des tâches à plus forte valeur. Pareil pour tout ce qui va être des comptes rendus de réunions. Je suis bien contente d'avoir un agent dans mes réunions qui fait la prise de notes, parce que c'est une tâche qu'on est beaucoup à faire après et qui, moi, ne va pas m'apporter grand-chose à revoir mes notes que j'ai fait un peu rapidement tout en essayant de suivre le débat. Maintenant, en fait, je peux être complètement concentrée dans ma réunion. Et après, je sais qu'il y a l'agent qui va me faire toute la récite après.
Oui, qu'il faudra vérifier quand même. Parce que
ça n'empêche pas le contrôle. Ah, ça, surtout pas, ça n'empêche vraiment pas le contrôle.
Parce qu'il passe parfois à côté du truc le plus important pour
nous. Ou même, il écrit parfois mal des choses ou des noms et des entreprises et des choses comme ça. Mais l'utilisation n'empêche pas le contrôle, mais ça, moi, ça me fait gagner énormément de temps.
Oui.
Des fois, il va même dans des réunions, on le voit apparaître, alors que la personne n'est pas encore là et ne vient pas. Et on se retrouve tout seul avec l'agence. On fait la réunion quand même ou...
Donc, vous nous dites, moi, j'apporte la preuve aujourd'hui qu'on peut baisser les coûts.
Mais alors, nous, on n'est pas dans
une...
Notre démarche, c'est... Moi, je ne suis pas le fervent défenseur de l'IA à dire c'est moins cher, c'est plus rapide, etc. Moi, mon point de vue, c'est l'IA permet d'aller plus loin. L'IA de qualité, avec les bonnes personnes, bien formées, avec un vrai sens derrière tout ça, permettent de créer des projets incroyables. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est tout simplement, on a une offre où on propose aux entreprises de petite moyenne taille qui n'avaient pas les budgets nécessaires pour faire des pubs cinématographiques, des pubs télé. Aujourd'hui, effectivement, avec un moindre coût, on va pouvoir créer. Donc le but, ce n'est pas leur dire, on va diviser vos coûts par 10. On garde les mêmes coûts, mais avec cet argent-là, vous allez faire 10 fois mieux qu'avant. C'est dans l'autre sens, en fait.
Ouais. Ok, intéressant. On n'a pas d'image, c'est dommage. J'aimerais bien qu'on ait un exemple de création.
Je vous invite à aller sur shake.ai. On a 700 films disponibles, des fictions, des clips, des pubs. Et comme c'est que vraiment la qualité, parce que nous, le but, c'est de mettre des films de qualité, vous pouvez naviguer. C'est un peu le Netflix de l'IA. Vous allez voir des beaux films. Voilà,
okay,
il y a
regarder.
De quoi faire.
Et au CES, il n'y avait rien sur la création, sur le divertissement ?
Plutôt, nous, on est plutôt sur la partie du Consumer Electronic Show, pour rappel. Donc, en fait, ces choses-là, on va peut-être, à mon avis, les retrouver plus dans d'autres salons, qui seront, par exemple, le Gaytex à Dubaï, qui est plus B2B.
Oui, où on a aussi le World AI Film Festival. À Cannes, je crois.
C'est celui-ci. Et
on en parlait tout à l'heure, voilà. Avant de venir.
Surtout, c'est que toute cette partie plutôt divertissement, nous prenez, en tout cas au CES, hein, prenez la forme de comment on va vivre l'expérience, c'est-à-dire avoir le casque connecté ou même la chaise qui vient bouger en même temps, tout ce qui est les simulateurs. Nous, c'était plutôt tourné là-dessus que sur la créativité à proprement parler. Parce qu'on est vraiment sur le consommateur là-dessus.
Oui, mais pourtant, ce serait intéressant que ces salons, je trouve, évoluent. Ils se posent plus de questions de manière un peu plus large sur ce que ça induit pour la société. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été dans ces interviews de l'IA cette semaine dans Smartech. Sophie Duranteau, je rappelle que vous êtes manager conseil chez Nigi et Jérémy Angelier, fondateur de Shake. Merci. À suivre, on va parler de nos données. Nous sommes nos données.